texte dans nos Bibles, Ésaïe chapitre 1, et on va faire les versets 3 à 4 ce matin. Ésaïe chapitre 1, chapitre 3 et 4. Alors vous direz, oh là là, c'est gargantué, deux chapitres d'un coup de la parole de Dieu, c'est vrai. Ce n'est pas toujours facile de comprendre les prophéties, hein, car Dieu ne donne pas de date. Des fois il en a donné, quelques fois il en a donné, mais la règle générale c'est qu'il n'y a pas de date. Et on ne sait pas, il faut savoir est-ce que c'est une prophétie qui s'est déjà accomplie, ou est-ce qu'elle est en cours d'accomplissement, ou est-ce qu'elle est déjà pas du tout accomplie, c'est pour le futur. Ou bien des fois c'est imbriqué, les deux sont imbriqués, le prophète va parler d'une prophétie pour le court terme et il va prolonger par une prophétie pour le long terme, mais tout ça c'est difficile à approcher, à comprendre. Et des fois même, il y a ce qu'on appelle le double accomplissement, où on voit que les prophéties vont s'accomplir deux fois. La Bible nous encourage cependant à étudier les prophéties. Alors on va voir pourquoi c'est intéressant de les étudier ce matin, entre autres choses. Voici ce que dit écrit l'apôtre Pierre avant son départ. C'est sa lettre de testament, on peut dire la deuxième épître de Pierre, et voici ce que l'on lit. Chapitre 2 Pierre 1, un passage bien connu. Verset 19. Nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous feriez bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'au jour où viennent apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez d'abord vous-même qu'aucune prophétie ne peut être objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas pour une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je vais vous enlever ça. Témoigne le bruit de la salle. Ceux qui suivent avec Instagram.
Voilà. Donc, la prophétie, une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et c'est très, très beau de voir ainsi les prophéties que Dieu nous a données dans sa parole. Alors, du courage ce matin, on va prier. Seigneur, merci de nous aider à comprendre ce matin ce que dit ta parole. Je vais apporter quelques remarques, le fruit de mon travail d'étude, Seigneur, mais cela n'est rien. Seigneur, si tu, par ton esprit, tu nous révèles pas ta parole. Et Seigneur, que tu parles à nos cœurs et que tu nous nourrisses ce matin, que tu nous permettes de quitter cette salle rassasiée. Seigneur, nous avons envie, on l'a chanté, de grandir, nous avons envie de faire des progrès dans la foi, nous avons envie de ressembler à Jésus. Et voilà, une lampe qui brille pour nous aider à cela ce matin. Merci Seigneur de ouvrir et de nous rendre attentifs. C'est pas facile d'entendre, de suivre quelqu'un qui parle comme ça pendant longtemps. Seigneur, mais toi, tu peux rendre ce discours intéressant et même passionnant. Et les minutes peuvent passer sans que l'on s'en rende compte. Je te prie également pour les enfants, qu'ils puissent apprécier cette petite travail pour eux ce matin aussi. Et Seigneur, que tu les bénisses. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, je vais lire la première partie. Il y a deux parties ce matin. Une partie jugement, qui annonce le jugement d'Israël et de Jérusalem. Et une deuxième partie avec un message d'espérance également pour Jérusalem et Israël, mais aussi pour nous, on va le voir. Dans la première partie. Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, va retirer de Jérusalem et de Juda tout appui, toute ressource de pain, toute ressource d'eau. Le héros et l'homme de guerre, le juge et le prophète, le devin et l'ancien, le chef de cinquantaine et le magistrat, le conseiller, l'habile artisan, l'expert en magie. Je leur donnerai des garçons pour chefs, des gamins capricieux domineront sur eux. L'oppression sera réciproque parmi le peuple. Chacun opprimera son prochain. Le jeune garçon maltraitera le vieillard. Le vaurien, celui qui jouit des honneurs. Un homme ira jusqu'à s'emparer de son frère dans la maison paternelle. Tu as un habit. Tu seras donc notre chef. Prends en main ces décombres. Le jour même, il répondra, je ne suis pas médecin, il n'y a ni pain ni habit dans ma maison. Ne me désignez pas comme chef du peuple. Oui, Jérusalem trébuche et Judas s'écroule parce que leurs paroles et leurs manières d'agir sont dirigées contre l'Éternel, défiant ses glorieux regards. L'expression de leur visage témoigne contre eux, comme le fait Sodome. Ils dévoilent leurs péchés sans rien en cacher. Malheur à eux, car ils préparent eux-mêmes leur perte. Dites au sujet du juste, cela ira bien, car il jouira du fruit de son activité. Malheur au méchant, il connaîtra le malheur, car il récoltera le salaire de ses actes. Mon peuple a pour oppresseur des enfants et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent et détruisent la voie dans laquelle tu marches. L'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. L'Éternel entre en jugement avec les anciens de son peuple et avec ses chefs. Vous avez dévasté la vigne. Les biens volés aux pauvres sont dans vos maisons. De quel droit piétinez-vous mon peuple et écrasez-vous la dignité des pauvres? Déclare le Seigneur l'Éternel, le Maître de l'univers. On va s'arrêter ici, une première partie qui concerne le jugement des hommes. Et après, suivra le jugement des femmes. Alors, versets 1 à 4, vous l'avez vu, Jérusalem va être privée d'eau, privée de pain, mais aussi privée d'hommes. L'élite de Jérusalem ne sera plus là, il n'y aura plus d'hommes, de cadres, de structures, structurants pour la société. C'est ce qui est décrit dans ces premiers passages. Si vous avez le texte sous vos yeux, je vous encourage à ouvrir ce passage, Ésaïe chapitre 3, au début du chapitre. Et il est dit un petit peu plus loin, je leur donnerai des garçons pour chefs, des gamins capricieux domineront sur eux. Il n'y a plus de cadre, il n'y a plus d'administration, de personnes responsables, et voilà, ils ont à la place des enfants qui les dirigent. Le peuple est dirigé par les enfants, et puis c'est la grande pagaille, hein. Il y a des conflits, il y a des problèmes entre les générations, et tout est mélangé. C'est une véritable anarchie que le prophète voit ici dans sa vision. Versets 8 à 9, vous avez entendu les raisons qui font que Dieu en arrive à cela, à ce jugement de supprimer d'Israël tout appui en eau, en pain et en homme. Verset 8. Jérusalem trébuche et Judas s'écroule parce que leurs paroles et leurs manières d'agir sont dirigées contre l'Éternel, défiant ses regards glorieux. L'expression de leur visage témoigne contre eux, comme le fait Sodome, ils dévoilent leurs péchés sans rien en cacher. Malheur à eux, car ils préparent eux-mêmes leur perte. Alors, on n'a pas de détails ici de la façon dont ce peuple mettait en défi l'Éternel. Mais nous savons que le peuple d'Israël n'est pas un peuple ordinaire comme les autres peuples de la terre. Euh, Ils étaient le Dieu, le Créateur, l'Éternel était pour eux un suzerain, celui qui les avait fait sortir d'Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte, ils les avaient pris et il avait fait de ce peuple, un peuple d'esclaves, une nation d'élite. Et vraiment, ils devaient tout à l'Éternel. Ils avaient une position de vassal. Et voilà qu'ils se retournent un petit peu contre leur Dieu, ils le mettent au défi. Cela fait penser tout ça à la façon dont Adam, un jour, a décidé de désobéir à Dieu, ouvertement. Et il a pris ouvertement la pomme, c'est pas la pomme, le fruit, défendu qu'il ne devait pas manger, et ouvertement, il a mangé, lançant un défi à l'Éternel, au grand prince souverain de l'univers. Et la parole de Dieu est claire, ici, à la fin du verset 9, ils préparent eux-mêmes leur perte, ils préparent eux-mêmes leur perte. Comment en sont-ils arrivés là? Versets 10 et 11, il y a là un verset de transition. Dites au juste, cela ira bien, car il jouira du fruit de son activité. C'est ce verset que j'ai choisi comme titre du message ce matin. Et ça va être le verset avec lequel on va se raccrocher, parce qu'on est encore dans des moments difficiles, des moments où Dieu juge son peuple. On va se raccrocher à ce verset. Le juste va pouvoir traverser ce jugement, mais malheur, malheur aux méchants. Ensuite, nous avons dans les versets suivants comme une petite séquence où on voit Dieu qui est en train de juger son peuple. Et là, on a quelques informations, une autre information de pourquoi il y a eu ce jugement. Et vous avez vu un petit peu ce qu'il est reproché. Le pauvre est opprimé, il est écrasé. On a l'image ici du grain qu'on met dans le moulin, vous savez, il y a un petit trou, on fait tourner la pierre de dessus et de dessous écrase le grain. Et le pauvre est écrasé à Jérusalem. Il est pillé, hein, il est rendu esclave. Et c'est quelque chose de grave, parce que dans la culture, la structure de la société israélite, elle était organisée par famille, et donc on avait des chefs de famille qui étaient responsables de leur famille, de leur tribu, de leur clan, et n'était pas question d'opprimer quelqu'un de sa propre famille quand on était chef. Et Dieu lui-même avait libéré tous ses esclaves, et s'il y avait un peuple qui savait ce que c'était qu'être esclave, c'était le peuple d'Israël. Ils étaient esclaves en Égypte, et Dieu les avait tous rachetés et tous appartenaient à l'Éternel. Il n'était pas possible de rendre son frère esclave, et pourtant c'est ce qu'ils avaient fait. Et vous savez, l'histoire montre que chaque fois qu'il y a eu de l'esclavagisme, il y a eu enrichissement de ceux qui avaient des esclaves, un enrichissement honteux qui se produisait par l'utilisation d'esclaves. Dans toutes les sociétés, cela se produit ainsi. Et voilà ce qui était arrivé à Jérusalem. Voyons maintenant ce qui concerne la suite de notre texte et le jugement des femmes. Donc c'est le passage qui suit. Je vais le lire maintenant, à partir du verset 16 du chapitre 3. L'Éternel dit: les filles de Sion sont orgueilleuses et marchent à coups tendus et le regard effronté. Elles vont à petits pas et font résonner les boucles qui ornent leurs pieds. À cause de cela, le Seigneur rendra chauve le sommet de leur tête, l'Éternel dégarnira leur front. Ce jour-là, le Seigneur enlèvera les boucles qui servent d'ornement à leurs pieds ainsi que les filets et les croissants, les boucles d'oreilles, les bracelets, les voiles, les diadèmes, les chaînettes de pied, les ceintures, les boîtes à parfum, les amulettes, les bagues, les anneaux de nez, les habits précieux, les larges robes, les manteaux, les sacs à main, les tissus fins, les chemises fines, les turbans, les châles. Verset 24. Au lieu de parfum, il y aura de la pourriture. Au lieu de ceinture, une corde. Au lieu de cheveux bouclés, une tête chauve. Au lieu d'un large manteau, un sac étroit. Une marque faite au fer rouge, au lieu de la beauté. Tes hommes tomberont sous l'épée, tes héros tomberont au cours du combat. Les portes de Sion gémiront et seront dans le deuil, dépouillées, elles s'assieront par terre. Ce jour-là, sept femmes s'empareront d'un seul homme en disant « Nous mangerons notre propre pain, nous mettrons nos propres habits, mais fais-nous seulement porter ton nom, enlève notre déshonneur. » Une situation dramatique. Alors, on a ces dames-là et on les voit. Le but, c'est quand même de ne pas passer inaperçu. On marche à tout petit pas. On a des petites choses aux pieds qui font de ling-ling. Quand on marche, et puis on est vêtu, voilà, dans une somptueuse toilette. Et ainsi étaient les femmes de Jérusalem à ce moment-là. Et Dieu dit non. Il y a de l'orgueil. Elle marche le cou tendu et le regard effronté. On peut très bien imaginer cela. Vous avez suivi, écouté tout ce qui était leur apparat, leur tenue, leur toilette, qui est largement détaillé ici. Et il y a des petits détails qui sautent aux yeux ou aux oreilles. Elles avaient des filets et des croissants. Alors les croissants, c'est des petits bijoux en forme de lune, on en trouve beaucoup, c'était très répandu dans l'Antiquité, en forme de lune, et ça évoque le culte des astres, qui était répandu au Moyen-Orient. Donc ça rappelle l'idolâtrie. Elles portaient des bijoux qui rappelaient l'idolâtrie. Elles avaient aussi des amulettes, hein, des porte-bonheur, des objets sans lesquels, voilà, on avait fait un truc là, hein, on dirait des gris-gris, et elle portait ça avec elle, et ça évoque la magie. Et voilà quelle était la parure de ces dames. Vous avez également entendu le mot de magie, tout à l'heure j'en ai pas parlé quand il s'agissait des hommes. Il y avait parmi les hommes qui ont disparu de Jérusalem, il y avait toute la haute société. Et là, dans cette haute société, il est fait mention de devins et il est fait mention d'experts en magie. Et il y avait cela à Jérusalem, qui avait pignon sur rue. Donc on peut remarquer cela au passage. Et on voit le jugement qui tombe sur elles. Et donc elles vont passer d'un statut à l'autre, hein, du statut de prince. Elles vont passer au statut de comme les esclaves, une corde marquée au fer rouge, dépouillée, la tête rasée. Dans cette condition-là, il n'y a pas d'hommes. Enfin, les hommes ont été tués à la guerre, d'autres sont partis en déportation. Il y a peu d'hommes à Jérusalem et elles cherchent désespérément quelqu'un avec qui elles pourront trouver un mari et elles n'en trouvent pas. Et on voit cette image, cette femme qui s'accroche à un homme et le supplie de les épouser pour rien, simplement pour enlever leur déshonneur. Voilà la situation qui est décrite de Jérusalem. Alors, est-ce que la prophétie que nous venons de lire s'est accomplie? Je pense qu'on peut dire oui. En 605 et en 597, il y a eu deux déportation d'hommes de Jérusalem. La première fois, c'était une petite déportation. Les personnes instruites seulement ont été déportées, dont Daniel et ses amis. Et la deuxième fois, c'était davantage, c'était les artisans, etc., tous ceux qui qui avaient de la, comme on dirait, entre parenthèses, de la valeur ajoutée, tout ce qu'ils savaient faire des choses. Nebuchadnezzar les a tous amenés à Babylone avec les instruments du temple. Et ça, c'était la deuxième déportation. Et ensuite, il y a eu le siège de Jérusalem, parce que une troisième fois, les Israélites se sont montrés rebelles à Nebuchadnezzar, qui était venu amené par Dieu pour les exercer le jugement. Tout ça, c'était organisé par Dieu. Et là, dans le siège de Jérusalem, il s'est passé des choses terribles. C'est raconté dans le livre des Rois, surtout dans le livre de Jérémie des Lamentations, qui a vu tout cela de ses yeux, et il a vu l'état catastrophique dans lequel est tombé Jérusalem pendant le siège, et en particulier l'état catastrophique dans lequel sont tombées les femmes au milieu de Jérusalem, privées de tout. La Bible mentionne également trois justes qui ont traversé cette déportation. Ils ont eu la vie sauve. Jérémie, bien sûr, le prophète, mais aussi Baruch, qui était son secrétaire, qui recopiait toutes les paroles que Jérémie prononçait, et Ebed-Melech, il est fait mention de lui également, un eunuque au service du roi, qui s'est débrouillé pour tirer Jérémie d'une citerne dans laquelle ses détracteurs l'avaient plongé au fond d'une citerne. Il s'enfonçait dans la boue, il n'avait rien à manger et il l'avait sauvé. Il avait été intervenu auprès du roi Sédécias pour le faire sortir. Et donc, ceux-là ont reçu la promesse de Dieu, ils auront la vie sauve. Ils vont traverser ce siège. Et ça illustre notre verset 10. « Dites au sujet du juste, cela ira bien, car il jouira du fruit de son activité. » Et ce verset devait être précieux pour les personnes qui ont vécu cela, qui ont entendu les prophéties qui ont entendu la prophétie d'Ésaïe. J'ai pas fait le calcul, mais on doit être 70 ans ou 80 ans après le prophète Ésaïe. Et ils avaient ces textes-là d'Ésaïe. Et ils ont pu, à travers toute cette épreuve, se raccrocher à ce verset 10. Dites au juste, cela ira bien. Ils avaient besoin de cela. Ils avaient besoin de ce soutien à ce moment-là. Alors, la parole de Dieu ne va pas nous laisser au fond du trou. Hein. Son objectif n'est pas de nous accabler, que l'on quitte la salle de culte complètement raplapla, en disant « aïe, 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 catastrophe ». Non. La prophétie qui suit est une magnifique vision, un petit peu comme celle qu'on avait vue la semaine dernière ensemble. Et on va la lire maintenant, le chapitre 4, verset 2, jusqu'à la fin du chapitre. On va lire ensemble. À ce moment-là, au même moment, il situe les deux prophéties, sont au même moment pour Ésaïe, c'est très intéressant. À ce moment-là, le germe de l'Éternel sera splendide et glorieux. Le fruit du pays sera source de fierté, d'honneur pour les rescapés d'Israël. Ceux qui subsisteront à Sion, ceux qui auront survécu à Jérusalem seront appelés saints. Tous ceux qui seront inscrits pour la vie à Jérusalem. Cela arrivera lorsque le Seigneur aura lavé les souillures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui se trouve au milieu d'elle par le souffle du jugement, par le souffle de la destruction. L'Éternel fera alors apparaître sur toute l'étendue du mont Sion et sur ses lieux de réunion une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera abrité. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour et pour servir de refuge et de protection contre l'orage et contre la pluie. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Donc on a, après le terrible jugement de Jérusalem, ce jour-là, à ce moment-là, le germe de l'Éternel sera splendide et glorieux. Et tout à coup, on a une vision qui illumine tout. Tout s'illumine, soudain. Combien ça contraste avec le chapitre 3. Et il y a là le germe. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un germe? Ben, vous le savez, hein, c'est un tout petit... un grain d'haricot, là, les enfants ont fait pousser ça, on la met avec un peu d'eau à l'école, puis on regarde pousser le haricot, et le germe, c'est là d'où va partir la racine vers le bas et la tige vers le haut. Et pendant quelque temps, le petit germe va se nourrir de la substance qui est dans le haricot, dans le reste du grain. Et donc, c'est tout petit, un germe. Mais c'est ce qui donne des grands arbres. Et donc là, on a cette image. Et alors, qui est ce germe? C'est qui ce germe? Alors, si vous faites une recherche sur votre smartphone, vous tapez germe, et dans votre Bible, vous prenez une concordance, et bien vous verrez qu'à plusieurs reprises, dans la suite des temps, les prophètes vont parler de ce germe. Et on l'identifie bien au serviteur de l'Éternel, et on l'identifie à Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et la mention du Messie, ici, illumine notre texte. Ça illumine complètement notre texte. Il est question en suivant de purification et de sainteté. Morel a introduit le culte avec sur ce thème-là. Est-il possible de purifier Jérusalem de l'état dans lequel il se trouvait? Oui. Dieu peut le faire. Dieu va purifier Jérusalem. Il va purifier ses dames. Il va les laver de leurs souillures. Pourquoi? Toujours dans le livre de la loi qui est le code qui conduit tout le reste de l'histoire biblique, la Torah, il est question dans le Lévitique de cette phrase qu'a prononcée l'Éternel à plusieurs reprises. Vous serez saints, car je suis saint. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Dieu va l'accomplir. Mais il est question ici du souffle du jugement et du souffle de la destruction. Ça va être une purification qui va être dans la douleur. Qui va être dans la douleur. Purification et sainteté. Et on a versets 5 et 6 sont très très beaux. On a une image qui est difficile à traduire. L'Éternel fera alors apparaître sur toute l'étendue du mont Sion et sur ses lieux de réunion une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatant pendant la nuit. Tout ce qui est glorieux sera abrité. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et de protection contre l'orage et la pluie. Cette nuée fait bien sûr penser encore une fois à la Torah, encore une fois à l'histoire du peuple quand il a été conduit dans le désert par Moïse et il y avait cette colonne de feu pendant la nuit qui reposait au-dessus du tabernacle et la colonne de fumée pendant le jour et ça guidait le peuple et Dieu était au milieu de son peuple. Il voyait cela visuellement. Et là donc on a de nouveau cette image qui revient. Mais là, pas seulement sur un petit coffre de bois, non, la nuée et la colonne va s'étendre sur toute la montagne de Sion. Toute la montagne de Sion. Et les lieux de réunion, il est question des lieux de réunion. Quand le prophète Ésaïe, les synagogues n'existaient pas, elles vont être mises en place plus tard. Mais un juif qui lirait ce texte maintenant, certainement il penserait aux synagogues. Il va y avoir là où on sera réunis, il va y avoir la présence de Dieu, la nuée, comme une voûte au-dessus de nous. Le mot ici, c'est une daie. Bon, j'ai regardé ce que c'était une daie. C'est, vous savez, si vous avez vu les rois, tout ça, les lits qu'ils avaient là, il y avait quand on voit les contes des princesses, tout ça, il y a le lit et puis il y a des coins au lit et puis il y a une couverture au lit comme ça qui le couvre. Hein. C'est l'image également de ce qui couvre la chambre nuptiale. Le lit nuptial est recouvert d'une daie. et qui le protège. Et il y a cette idée ici de cette protection qui va s'étendre sur le peuple. Et il va protéger de la pluie et il va protéger de l'orage du soleil. On a vécu des grosses canicules. Quand il faisait 40 degrés sur le Kos, est-ce qu'il faisait bon être sous le soleil? Non. Personne ne voulait être sous le soleil. Et là, il est question de cette dais glorieuse qui protégera du soleil. Et dernièrement, nous avons eu des grêlons qui sont tombés à Figeac, des gros grêlons comme ça. Est-ce qu'il faisait bon être sous les grêlons à ce moment-là? Absolument pas. On voulait absolument un abri. Et cette dais sera une protection contre les grêlons. Et là, je pense que nous avons une belle protection dont le juste bénéficie au moment du jugement. Il est protégé contre le soleil, il est protégé contre l'orage, il est protégé du jugement. Est-ce que cette prophétie de la présence de Dieu sur tous est accomplie? Est-ce que c'est accompli? Un Israélite dira, non, ça c'est encore à venir, on n'a pas vu ça de nos yeux. Alors que l'autre prophétie d'avant, on l'a vu de nos yeux. C'est pas encore accompli. Mais le chrétien dira, en Jésus-Christ, je dirais que tout cela est accompli. Le Seigneur est venu parmi les hommes. Le Dieu trois fois saint s'est fait homme et il est habité, il est devenu un petit embryon dans le ventre d'une maman. Et il a grandi, il est devenu un petit bébé. C'était tout petit. Et puis il a paru, il a fait des œuvres magnifiques quand il était sur la terre, quand il était grand. Il a porté du fruit. Et puis il a subi le souffle du jugement et la destruction à la place du croyant. Il a fait de des saints. Il a pris sur lui-même ce jugement et il a fait de ceux qui croiraient en son nom des saints. Et nous savons cela. Et il a amené le salut à des millions de personnes. Et maintenant, le Saint-Esprit repose sur chaque croyant, pas au tabernacle, mais sur chaque croyant. Et il y a une promesse, une bénédiction spéciale là où deux ou trois sont assemblés. Dieu est là, Dieu est au milieu d'eux. Et cette protection que Dieu donne dans les détresses, il a dit qu'il était avec nous, il a dit qu'il nous protégeait. Je peux dire que cette prophétie est accomplie en Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est pas toujours simple à comprendre les prophéties. Qu'est-ce que peut nous apprendre une prophétie qui s'accomplit? Elle nous instruise sur la fidélité de Dieu. Dieu accomplit ses promesses. Il promet et il accomplit. Quand on voit une prophétie qui s'accomplit, ça nous parle de la fidélité de Dieu. Il l'a fait, il le refera. Elle nous met en garde contre le péché. Le péché est dénoncé et elle nous met en garde ce qu'il ne faut pas commettre. Et l'accomplissement des prophéties donne l'autorité également aux prophéties qui ne sont pas encore accomplies. Ça donne l'autorité au texte que nous avons entre les mains. On a parlé de ça la semaine dernière. Et s'il concerne les prophéties à venir, pas facile à comprendre, eh bien, nous tiennent en éveil. Nous cherchons par elle à savoir à quelle heure nous sommes sur le cadran de Dieu. Le compte à rebours jusqu'à la venue du Messie, on en est où? C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et alors on sonde les Écritures pour savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que le Seigneur va tarder encore? Les prophéties à venir nous donnent de l'espérance. Elles nous décrivent le bonheur à venir d'être à 100% avec Jésus. Elles nous parlent de cette espérance-là. Et les prophéties à venir nous soutiennent dans l'épreuve également. Oui, un jour, le juste sera sauvé pleinement. Un jour, le méchant disparaîtra. Il n'y aura plus. Il sera éliminé. Et ce sont de précieuses promesses pour notre foi et notre marche de tous les jours que ces prophéties qui sont encore à venir. Merci pour celles qui sont accomplies. Merci pour celles qui sont à venir. Les deux contribuent à notre marche et à nos progrès spirituels. Quelques points saillants de notre texte. Il y a une partie qui s'adresse aux messieurs, hein, on l'a bien noté. Attention de ne pas opprimer le faible et le pauvre. Alors, attention lorsqu'on est en situation de force. Quand on est en situation de force, on est en danger. Les Israélites avaient perdu la crainte de Dieu au point de le défier. Ils se croyaient forts. Ils se voyaient forts. Ils avaient perdu de la vision la crainte de Dieu. Attention, messieurs, que cela ne nous arrive pas. On avait parlé du problème avec les veuves la dernière fois. Et là, il s'agit des pauvres qui sont écrasés. On doit faire attention à cela. On doit se souvenir de... On a une responsabilité. Ce n'est pas intellectuel. Ce sont des choses pratiques et concrètes pour nous garder dans l'humilité. De savoir le pauvre, celui qui n'a rien, il a été créé par Dieu comme moi. Comme moi. Comme moi. Je ne suis pas différent de lui. J'ai un même créateur. Et on doit avoir ça en tête. C'est Dieu qui a créé le pauvre. Pour les dames, elles avaient une tenue, bon, mais elles portaient des symboles particuliers d'idolâtrie et des symboles de magie. Et pour les dames, on n'en parle pas souvent des dames, de la tenue des dames à travers les Écritures, mais là, quand même, il y a un gros passage qui parle de ça. Et aussi, je voudrais saisir l'occasion pour non pas se observer les uns les autres, mais de s'examiner. Les hommes sont concernés aussi, parce que maintenant, ils sont très à l'affût de leur tenue, leur look, tout ça, c'est très important pour les jeunes hommes aussi, donc ils sont concernés. Pourquoi je porte ce que je porte? Ça représente quoi? Quel symbole je véhicule par ma tenue? Ma tenue dit quoi de moi? Et c'est important, parce que la façon dont on se tient, bon, il y en a qui font des tatouages, tout ça, il y en a qui font... tout est porteur de symboles, et on dit quoi de nous? Et ça révèle et ça nous parle de notre cœur. Ça nous montre qu'est-ce qu'on est vraiment. Et quand on se pose, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais porter tel habit plutôt qu'un autre? Ça parle de ce qu'on a dans notre cœur qui remonte là. Et donc, j'encourage à faire ce travail. Mais pourquoi je porte ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Il y a de beaux conseils dans la parole de Dieu pour être beau. Alors, on ne va pas se refuser de les lire. Hein. On connaît bien le premier épître de Pierre. Pierre, il est formidable parce que c'est un vrai pasteur. Il a la passion pour les frères et les sœurs. Hein. Il les aime beaucoup. Et voilà ce qu'il écrit. 1 Pierre 3. Femme, que chacune soit de même soumise à sa... C'est pas là. Voilà. 3:3. Ayant cette parure intérieure qui consiste non dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Et Sarah était une princesse. Hein. Sa parure pour elle, voilà, un caractère doux et paisible. Voilà ce qui convient. Il y a aussi un texte parallèle, parce que l'Église est concernée aussi dans tout ça. Hein, Apocalypse 19, versets 7 à 8. Voilà ce qu'on lit. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Se parer de bonnes œuvres. Se parer de bonnes œuvres. Et c'est un fil conducteur de tout notre passage que les œuvres ce matin. On a également dans notre texte un symptôme pour les temps de jugement. La raréfaction des hommes selon le cœur de Dieu et l'arrivée de mauvais chefs, de mauvais dirigeants. Ça, c'est un signe de jugement. Lorsque les hommes, selon le cœur de Dieu, se font rares. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Un passage bien connu, mais qui fait écho à notre texte de ce matin. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, arrogants, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Une belle description de ce qui se passait à ce moment-là à Jérusalem. Aimant le plaisir plus que Dieu. Des symptômes des temps de jugement. Un autre point saillant, c'est que Dieu purifie son peuple. Dieu va purifier l'église de Figeac. Alors c'est une bonne nouvelle. On peut être certain de ça. On peut en être certain. Mais ayons la crainte de Dieu et humilions-nous pour qu'il n'ait pas à employer les grands moyens dont il est fait mention dans notre texte. Parce que là, il a employé les grands moyens pour purifier Jérusalem. Qu'il n'est pas, soit pas obligé d'agir de cette façon-là. Mais si c'est nécessaire, Seigneur, fais-le. Fais-le. Ne nous laisse pas dans la souillure et dans l'impureté. Mais purifie-nous. Purifie-nous. Le point majeur, c'est ce verset, je pense. Dites au juste, au sujet du juste, cela ira bien. Car il jouira du fruit de son activité. Alors que tous ceux parmi nous qui ont la crainte de Dieu, qui devant le Seigneur ce matin ne se sentent pas coupables en eux-mêmes, recevons ces paroles. Dites au sujet du juste, cela ira bien. Le Seigneur est là et il nous protège. Et il nous protège. Il dresse un tabernacle sur nous pour nous protéger du jugement. Donc, il y a une belle promesse ce matin pour celui qui marche dans les voies du Seigneur et qu'il entend ce verset ce matin. C'est pour lui. Il est question des œuvres dans ce verset. Il jouira du fruit de son activité. Ça, c'est un point important, il me semble. Vous connaissez l'enseignement de l'apôtre Paul. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Ce ne sera pas pour rien si vous vous donnez de la peine aujourd'hui pour lui. 1 Corinthiens 15, 58, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Galates 5, 9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Et pour le temps de l'épreuve, un dernier verset d'Apocalypse 14, 13, heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur. Dans la persécution, dans la souffrance, dans les cataclysmes, dans leur service. Oui, dit le Seigneur, afin qu'ils se reposent de quoi ? De leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Alors, certes, on n'est pas sauvé par les œuvres, vous le savez, mais l'apôtre Jacques l'a dit, la foi sans les œuvres, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Donc, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. C'est une saine occupation qui nous permettra de traverser les temps de troubles et de jugements, si Dieu le décide ainsi. On va prier. Seigneur, merci pour ce matin. Aïe, il était encore un peu long, Seigneur, mais que nous puissions nous saisir de ces promesses et vraiment, avec résolution, avoir le désir de nous purifier, d'être saints comme tu le souhaites et d'avoir cette vie remplie d'œuvres qui sont belles, des fruits que tu attends, que tu veux pour ton Église dans nos vies. Tu veux qu'il y ait du fruit et tu es immonde et tu travailles pour qu'il y ait du fruit, Seigneur, pour ta gloire, pour que tu puisses mettre la faucille à la moisson et rentrer le grain. Seigneur, merci. Il faudra peut-être qu'on passe par des moments difficiles et des temps d'épreuve. Mais tu as protégé à ce moment-là Baruch, tu as protégé l'eunuque éthiopien, tu as protégé Jérémie. Et Seigneur, certainement, ta grâce nous protégera aussi. Merci de nous fortifier encore, de nous bénir, de nous purifier, Seigneur. Et nous voulons nous présenter à toi pour cela. On ne veut pas faire les rebelles, on ne veut pas te défier, on veut s'humilier, on veut t'écouter et on veut t'obéir à tout ce que tu nous dis. Tous ces passages sont remplis d'instructions concrètes pour nous. Et semaine après semaine, on veut en faire la collection et être des auditeurs qui ne sont pas que des auditeurs, mais qui sont aussi des acteurs avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors les enfants, est-ce que vous avez trouvé? Ouais.